Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Avec aujourd'hui, eh ben c'est la 150e de cette émission, on va avoir le plaisir avec Jean-Claude Adelin qui va nous parler de quelque chose de passionnant, c'est la surprise pour tout à l'heure. Ceci dit Jean-Claude, on y va.
Alors, on y va.
Pas 25 minutes, ça va être près d'une heure. Hein.
Allons-y, c'est parti.
Alors, on va prendre le cheval au mot aujourd'hui, le mot poulain. Donc, ce mot vient du bas latin, on disait poulamen, et il désigne en fait le petit d'un animal et plus spécialement un jeune coq. Donc, ça n'a rien à voir avec les chevaux. Et c'est simplement au XVIIe siècle qu'il prend le sens actuel de petit du cheval. Alors, en hippologie, le poulain désigne évidemment un cheval de moins de 2 ans. Voilà, dès qu'il a 2 ans et un jour, c'est plus un poulain, c'est un cheval. Par analogie, on nomme poulain l'assemblage des madriers dont on se sert pour le transport des marchandises, mais également dans la construction naval, l'arc-boutant qui empêche un bateau en construction de se déplacer. Et à la fin du 19e siècle, le mot s'applique à un jeune sportif, puis quelques décennies plus tard, un débutant qu'une personne influente aide à progresser dans sa carrière professionnelle. Voilà. Donc on connaît tout cela. Alors maintenant, on va aborder un thème que l'on appelle en France, et dans le sud de la France en particulier, les animaux totems. Alors justement, en parlant de poulains, j'aimerais évoquer l'un d'entre eux, mondialement connu, puisqu'il a été proclamé en 2005, patrimoine culturel et immatériel de l'humanité par l'UNESCO, c'est quand même pas mal, c'est le poulain de Pézenas. Alors Pézenas, c'est cette magnifique petite ville située à une vingtaine de kilomètres de Béziers, dans la grande plaine viticole languedocienne. Alors remontons le temps, nous sommes au début du XIIIe siècle, le roi de France Louis VIII arrive dans le Midi avec son armée pour mater les cathares retranchés qui sont retranchés dans la ville d'Albi. Alors selon la légende, il fait halte à Pézenas pour confier au bon soin de la population de la ville sa jument qui est malade. Il arrive avec sa jument mais sa jument est malade. Alors à son retour plusieurs mois après, il constate que non seulement sa jument est guérie, mais qu'elle a mis au monde un superbe poulain que les habitants de Pézenas lui présentent orné de feuillage et de rubans. C'était joli, beau paquet cadeau. Et pour les remercier, bien sûr, donc le roi Louis VIII leur demande plus exactement de construire un poulain en bois qui participera désormais à toutes les fêtes que la ville organisera. Voilà. Alors on va faire maintenant un grand saut vers le présent, plus précisément dans les dernières années du 19e siècle. Ça te dit rien, les dernières années du 19e siècle,
Jean-Claude? Ouais, un petit peu, oui, en ce moment, un petit peu beaucoup. D'ailleurs.
C'est un petit parfum de Julie. Hein.
Voilà, et puis c'est un petit peu jour et nuit aussi.
Et c'est un petit peu jour et nuit, exactement.
Oui, oui, oui.
Alors on va revenir au vignoble languedocien qui faisait la richesse de la province et qui a été ravagé par l'invasion d'un petit insecte qui s'appelle le phylloxéra, donc à la fin du 19e siècle. Et ruiné, de nombreux viticulteurs sont contraints de vendre leurs parcelles et de s'expatrier dans les grandes villes pour trouver du travail, en particulier à Paris, avec pour conséquence un dépeuplement massif des villes et des villages du Languedoc. Alors il y a quelques viticulteurs qui s'accrocheront pourtant malgré un contexte économique défavorable. Effectivement, dans les années 60-70, on assiste à une importante baisse de la consommation du vin par les Français. Les Français boivent beaucoup moins de vin. Voilà. Et à des importations massives aussi des vins d'Afrique du Nord, en particulier d'Algérie et d'Italie, et à l'attribution de primes incitatives à l'arrachage des vignes. Donc, bon, beaucoup de paysans.
Ça veut dire quoi? Que les étrangers buvaient plus que les Français?
Non, c'est pas ça. C'est que le vin était vraiment une boisson qui était très, très bu, et il y a une baisse de la consommation du vin qu'on continue à voir maintenant, ou par exemple, avec en contrepartie une hausse de la consommation de la bière, par exemple. Et je rappelle évidemment que toutes ces boissons sont dangereuses pour la santé et qu'il faut les consommer avec modération. Alors c'est ainsi que disparaissent du paysage les chevaux et les mules, remplacés par les tracteurs, mais également les grandes colles. Tu sais ce que c'est, les colles, toutes ces personnes qui viennent vendanger. On appelle ça une colle, ou une colle, il y a en Occitan, et qui mobilisent la population, pratiquement tout le monde, d'un village, une semaine ou deux, le temps de tout vendanger à la main. Et c'est également dans les années 70 que les habitants des villages se réapproprient leurs animaux totems, donc on y arrive, dont certains existent depuis le Moyen-Âge. Comme le plus ancien qui est connu, en tout cas, c'est le chameau de Béziers. Béziers a un chameau, c'est son animal totem, un chameau. A une bosse, du reste, il est un petit peu bizarre, ce chameau, il a une seule bosse. Alors la plupart des animaux sont représentés, depuis la grenouille, les poissons, le hérisson, le cerf, le loup ou encore le bœuf comme à Metz. Et parmi eux, 5 poulains ou chevaux. Donc dans la région languedocienne, on trouve à peu près 60-70 villages qui ont leur animal totem. Et avec toujours la même histoire qui explique et justifie la présence de ces animaux totem, dans un cas, c'est une attaque surprise des morts qui est jouée par l'animal qui donne l'alerte. Hein, voilà, la nuit, ils arrivent comme ça. Par exemple, le hérisson de Roujan, moi j'avais fait mon mémoire de maîtrise là-dessus. Il y a un mort qui arrive sous les remparts, il marche sur le hérisson, donc il se pique, il crie, et ça alerte évidemment les habitants du village qui se précipitent aux remparts et qui repoussent l'attaque. Bon, ça c'est le premier cas. Et dans le second cas, les morts sont remplacés par les armées du pouvoir royal venues réprimer ce que Rome avait condamné, donc l'hérésie cathare. Donc on voit aussi quand même un espèce d'irrédentisme du midi par rapport au pouvoir central. Voilà. Donc on va s'accorder maintenant une pause musicale avec Zazie.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Mon cœur de lion, à la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question, j'avance, avance à reculons.
Zazie, je tourne en rond.
Je suis un homme.
Ouh, elle tourne en rond.
Mais c'est un homme qui tourne en rond.
Voilà.
C'est un vrai. Elle a compris ce que c'était un homme. Ça, c'est une femme.
Voilà. Alors, c'est une formidable transition parce que ça va être à toi, Jean-Claude, bien sûr.
Et avec plaisir.
À toi, Bastien.
Baptiste.
Baptiste. Ah, oh, mais ça va bien ce matin.
Donc, Jean-Claude, on va parler de Mademoiselle Julie.
Oui.
Avec plaisir.
Dans un premier temps, je vais te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas.
D'accord.
Donc, tu es là pour nous parler de théâtre, et en particulier d'une pièce que tu produis.
Oui.
Tu la produis bien, et tu la réalises en même temps.
C'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus complexe que ça. En fait, il y a une, j'ai monté une compagnie, et c'est surtout la compagnie qui produit.
D'accord.
Donc, voilà, j'ai monté la compagnie, je me suis organisé, voilà, il y a un président dedans, il y a les secrétaires, enfin, c'est une compagnie tout à fait normale, une compagnie de spectacle, une compagnie de théâtre. Et voilà, c'est la compagnie qui produit. Oui. Mais enfin bon, on va dire que j'ai 7 à 8 casquettes dans la compagnie.
Ok, très bien.
Et une seule tête.
Donc, tu réalises la pièce aussi ?
Oui, je fais.
Tu l'as écrit ?
Voilà, j'ai réécrit en fait. C'est une pièce d'un auteur suédois qui est mort en 1912.
August Strindberg.
Voilà, 13, pardon. Merci Michel. Je le rajeunis. Et c'est vrai que je suis jeune aussi encore, c'est pour ça. Et donc du coup, j'ai pris cette pièce, j'avais envie, parce qu'elle a un thème qui est, moi, qui me touche personnellement et qui, je pense, touche chacun de nous, en tous les cas, tous les êtres sensibles. Voir aussi les plantes et voir aussi les arbres et la végétation, la faune et la flore. Hein. C'est-à-dire que le sujet est la domination et la soumission. Donc déjà sur l'humain, on sait ce que c'est, sur les animaux, on sait ce que c'est, et dans la pièce, il y a des humains et des animaux.
Très bien, on va y retourner un peu plus tard, je finis juste de te présenter.
D'accord.
Parce que tu es aussi comédien réalisateur.
Voilà.
Réalisateur, je l'ai dit, donc tu es comédien. On a pu te voir des films comme Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, avec mm-hmm. Charlotte de Turckheim à la réalisation par exemple.
Oui.
Tu as des anecdotes sur ta carrière de cinéma à nous dire ?
Ouh, là on va faire une émission alors.
Une petite alors. Une petite.
Une petite anecdote comme ça qui pourrait m'arriver. Oui, alors j'en ai une. C'était sur un film, Les Carole Bouquet et son nom m'échappe à l'instant. Mes yeux revolver, là, comment il s'appelle, le chanteur?
Elle a les yeux
revolver, elle a le regard qui tue.
Mais alors c'est très bien, on lance elle un concours auprès de nos auditeurs pour nous appeler.
On va se faire taper là.
Et voilà, on va se faire taper et donc que nos auditeurs nous appellent, voilà. Et donc
toutes mes excuses. Bon,
voilà.
Enfin, quand on a donc je supporte pas ce genre de choses. En fait, écoute, on était à une table, une terrasse de café, et il fallait que je raconte une histoire. J'étais un SDF, et puis je raconte que j'ai trouvé du boulot, et mon boulot, c'est d'être Père Noël. Et donc, mon camarade comédien me dit, ouais, bon, et alors, comment ça se passe? Ben, je dis, écoute, ça se passe très bien, sauf qu'il y a un petit truc bizarre quand même, je fais un Père Noël, mais dans la rue, on est 10 des Pères Noël, tu vois, et puis le dernier, c'est un arabe, et il a des baskets. Et là, il part en live, quoi, il se met à rire, et on prend un fou rire tous les deux. Et sauf que le fou rire, il dure trop longtemps. Et la réalisatrice, elle arrive à un moment donné et elle lui dit, écoute, c'est pas possible, quoi. Il faut arrêter, il faut tourner. Et on a mis mais plus d'une demi-heure à tourner une scène qui devait faire 3 minutes.
Ah ouais.
Voilà.
Pour la plus grande joie du producteur, j'imagine.
Oui, et à mon avis, il devait être content, oui. Enfin, il était content d'avoir l'acteur aussi.
Tu as aussi joué dans des téléfilms comme Joséphine Ange Gardien.
Oui.
Tu en fais souvent, non, je crois, des téléfilms.
Oui, j'en ai fait beaucoup, oui. J'en ai fait vraiment, vraiment beaucoup, oui. Oui.
J'ai vu que tu avais une page assez conséquente sur Wikipédia.
Oui.
Alors, au niveau des casquettes, tu es aussi un passionné d'équitation.
Oui.
Tu es cascadeur, en quelque sorte?
Non, j'essaie...
Cavalier, peut-être plutôt.
Oui, ouais. J'essaye de ne pas l'être, cascadeur. Hein, à mes heures, j'essaye d'être cavalier aussi. C'est pas mal, parce que c'est pas une chose évidente, en fait, de travailler avec des chevaux, surtout quand on essaie de travailler dans le respect, dans l'intégrité du cheval, et de faire des choses qui l'amusent. C'est ça, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que le cheval soit autant heureux d'être avec moi que je le suis avec lui. C'est pas une mince affaire.
Ouais, je peux comprendre.
Et tu as tourné tes films en tant que cavalier, par exemple, je pense un peu à Tropicamer.
Voilà, Tropicamer, j'ai tourné, j'étais à cheval, là, il y a des belles anecdotes aussi, puisque j'avais un petit poulain qui servait que à la saillie.
Vous aviez tourné le film à Cuba dans les...
Voilà, les trois quarts à Cuba, et puis on va dire un quart en Martinique.
D'accord.
Et le deuxième cheval que j'avais en Martinique, c'était un cheval qui avait une grande particularité, c'est que quand il en avait marre, il se mettait debout, il versait le cavalier et il rentrait à l'écurie, où qu'il soit dans l'île. Et moi, la scène que j'avais à tourner avec mon camarade quadrupède, c'était du galop.
Mais du galop à non plus finir, tu vois,
en particulier
dans les champs et tout ça.
L'arrivée, en fait, dans les, la première scène du film, pratiquement.
Enfin, exactement,
la seconde,
c'est ça.
On te voit arriver au triple galop.
Voilà,
et alors,
c'est ça.
Justement, une petite question technique, ça a été un petit peu accéléré ou c'est véritablement?
Non, c'est la vitesse.
C'est la vitesse.
C'est pas du tout accéléré.
Aucune tricherie.
Non, je pense.
Donc c'était une bombe, ce cheval.
Pense pas, c'est une vraie bombe. Et pour se lever, c'était une bombe aussi. T'avais pas le temps de basculer le poids vers l'avant que déjà t'étais au sol. Et en fait, comme je montais et que c'était quand même, le personnage que je jouais avait quand même un petit peu, il aimait bien, c'est un peu un arriviste, un peu comme Jean dans la pièce de Mademoiselle
Tout
Lévy d'ailleurs.
Fait.
Voilà. Et donc il essayait de faire les choses bien, c'est un peu un m'as-tu vu aussi, c'est aussi un peu un macho, c'est bon ben voilà, c'est une sorte de, on va dire, je sais pas moi, de Bernard Tapie avant sa grande réussite. Voilà. Je sais pas si on peut dire ça.
Mais
c'est toujours utile que pour monter à cheval, je montais juste avec une main aux rênes. Et ce cheval n'avait absolument pas l'habitude de ça. Et donc, tourner avec les voitures, avec la caméra, au triple galop à toute blinde, eh ben, ce petit coquin, il s'est pris au jeu. Et il y allait, mais franchement, super vite, quoi. Et donc, jouer la détente, la décontraction, le sourire, le bonheur, dans ces conditions-là, c'est pas toujours, toujours évident, surtout quand tu connais pas le cheval et que la seule chose que tu connais du cheval, c'est qu'il se gabre et il verse son cavalier pour entrer à l'écurie.
Est-ce que tu te souviens, est-ce que ce cheval avait un nom? Est-ce que tu te souviens de son nom?
Non. Mais par contre, l'autre que j'avais tout le temps, que j'avais à Cuba, oui. Il s'appelle Muñeco.
Muñeco. Ça veut dire
le petit gamin,
la petite poupée, enfin oui.
Voilà.
La muñeca en espagnol, c'est
exactement.
Une poupée. Oui.
Il était super beau, ouais, magnifique.
Et donc pour finir, tu réalises donc des pièces de théâtre. Mademoiselle Julie, c'est la troisième.
Alors Mademoiselle Julie, c'est, on va dire quoi, non, c'est la deuxième mise en scène que je fais, oui, au théâtre.
D'accord, très bien. Alors Jean-Claude, cette pièce, c'est ce qu'on appelle une tragédie naturaliste. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu peux nous résumer un peu la pièce aux auditeurs ?
Oui, bien sûr. C'est l'histoire d'un couple d'amants maléfiques qui travaille pour une femme hypersensible mentalement, charnellement, voilà, qui a un passé très écorché vif et qui est la fille d'un directeur de cirque. Alors là, je te D'accord. raconte un petit peu
la version réécrite, hein.
La version que moi je donne, évidemment, hein, c'est qui est pas tout à fait la même version qu'a donné l'auteur en 1880.
Même si tu as gardé exactement l'esprit de la pièce de Strindberg. Hein.
L'esprit de la pièce ne bouge pas, c'est-à-dire que le principe étant de faire entendre aujourd'hui à des gens qui vont pas souvent au théâtre, c'est-à-dire voilà, des gens, des ados, des gens qui sortent de l'ado, entre 15 et 20 ans ou 25 ans, de leur faire entendre cette pièce qui est très porteuse de choses qui sont très riches, quoi, qui sont très puissantes chez l'humain en tous les cas et qui créent beaucoup, 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 malheureusement, de confrontations. C'est-à-dire, il y a une grande part de l'ego, il y a une grande part de la domination, il y a une grande part de la soumission et tout ça sont des enjeux qui sont mis dans la pièce. J'ai simplement, non pas pour faire une infidélité à l'auteur, mais je pense pour aller aussi dans le sens de l'auteur, j'ai un petit peu développé, un peu plus que lui, le sens du machiavélisme et D'accord. de l'amour. Ce qu'il n'a pas pu faire, lui, en 1888, puisqu'il a été interdit de jouer dans son propre pays. Il a dû venir la jouer en France, et en France, il y a eu des censures.
Oui, j'ai vu ça.
Voilà.
D'ailleurs, moi, j'ai pas trop ressenti le côté machiavélique du couple, puisque j'ai l'impression que Christine est quelqu'un de finalement très pieuse, et elle n'est pas sur la même longueur d'onde que son mari.
Oui, ça c'est la version originale.
Oui.
Oui, voilà. Alors, ce qui s'est passé par rapport à en 1888, c'est-à-dire que les textes, il faut les remettre en situation. Et il faut les remettre dans leur contexte. Et c'est à ce moment-là qu'on voit si ça tient la route encore aujourd'hui, si ce sont des textes solides. Alors, ça tient très très bien la route. À la différence près qu'aujourd'hui, en fait, Strindberg, il a voulu donner un avantage à la femme. Il en a fait un personnage qu'il a mis sur un piédestal. Et donc, il était un petit peu avant-gardiste, on peut dire. Et il s'est fait descendre, il s'est fait critiquer, insulter par des féministes. Et donc, du coup, il ne pouvait pas décemment en faire trop sur l'évolution de la femme à l'époque, parce qu'à l'époque, la femme, elle voulait garder ses acquis de l'époque de 1888, qui sont plus du tout ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. On demande à une fille de 2014 de vivre en 1888, et en 1888, elle est plus du tout d'accord, quoi.
Elle est perdue, hein.
Voilà, elle est perdue, elle est révoltée.
Elle a plus envie, elle a plus envie.
Elle a plus envie du tout. Alors là, elle va ruer dans les brancards. Et elle aurait bien raison. Et donc, du coup, j'ai été dans le sens de Strindberg. En fait, je me suis dit, comment ferait August Strindberg aujourd'hui s'il avait à monter sa pièce? et s'il avait à parler à des jeunes. D'accord. À des gens qui ne sont pas habitués à aller au théâtre, surtout. C'est ça l'essentiel.
D'accord.
Parce que pour convaincre des gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre, des gens avertis du théâtre, des gens qui ont des abonnements, qui vont dans les théâtres souvent, c'était même pas la peine de la jouer autrement que ce qu'elle a toujours été jouée, puisque le public est acquis. Et en fait, on joue ce qu'on appelle du répertoire.
D'accord.
À partir du moment où on a envie de sortir un petit peu du répertoire, simplement pour être connecté au réel et au concret de la vie de tous les jours, à ce moment-là, il y a un petit travail à faire qui est le travail d'adaptation.
Mais d'ailleurs, on y reviendra plus tard, tu sais que je crois que Strindberg, il a eu un peu le même problème que toi. C'est-à-dire qu'en 88, en Suède, en tout cas, la religion et le théâtre, ça attire un peu moins qu'avant les personnes. Et je crois que lui aussi, il avait pour pari de réattirer du monde au théâtre.
Mmh.
Bon, il a été censuré, donc... Le pari n'a pas trop été tenu, en tout cas pour son pays, mais...
C'est-à-dire, il n'a pas été tenu à cette époque-là, mais si tu fais le bilan de nombre de fois que sa pièce a été jouée jusqu'à aujourd'hui, le pari, il est tenu
C'est peut-être la pièce qui est la plus jouée au monde depuis une cinquantaine d'années.
Ah bon, à ce moment-là?
Oui, elle est très, 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 très jouée, et ce qu'on peut expliquer par la richesse de cette pièce, qui dans l'original est quand même une pièce courte, ça ne dure pas des heures, mais qui est d'une danse cité incroyable. La preuve, en travaillant dessus, on s'aperçoit que Strindberg est allé vers l'essentiel, comme en suivant le tronc d'un arbre, mais du tronc de l'arbre, il y a des milliers de branches qui partent dans toutes les directions et qui sont aussi riches les unes que les autres.
Complètement.
Aussi prometteuses les unes que les autres.
Mmh. Complètement. Et oui, c'est ça qui fait que cette pièce tient le choc. Comme disait Boris Vian, pourquoi on fait des adaptations de pièces? On fait des adaptations de pièces pour en fait les rendre accessibles à un public contemporain. Donc ça a toujours été fait. Et ce que dit Boris Vian, ce qu'il défend, c'est qu'on peut le faire sans problème. On peut être vraiment tranquille par rapport à ça, parce que la pièce, si c'est une bonne pièce, elle tient le choc, et cette pièce sera adaptée de siècle en siècle. Toujours et toujours et toujours. Les pièces qui sont pas bonnes, il y a personne qui a envie de les adapter, tout simplement.
Oui, à part quelques érudits ou quelques amateurs inconditionnels, mais c'est vrai que
elles ont
tendance à disparaître.
Voilà.
Oui, voilà, c'est
exactement.
Ça, très peu joué, en tout cas, oui, bien sûr. Alors, j'aurais voulu, si tu le permets, Baptiste, te poser une question, Jean-Claude. Alors, cette pièce, évidemment, il y a deux chevaux aussi feront partie des comédiens, donc deux femmes, un homme et deux chevaux. Mais je me suis rendu compte que tu as énormément travaillé le rythme de cette pièce.
Oui.
J'ai l'impression que c'était pour toi quelque chose d'extrêmement important, un rythme particulier.
Oui.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus
Oui, c'est une bonne question. J'adore cette question parce que c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel alors que ça n'est pas a priori au théâtre. Ce n'est pas d'une façon évidente qu'on se dise, tiens, le rythme a été travaillé ou il y a une recherche sur le rythme. D'ailleurs, ça ne se voit pas. Ça se voit qu'uniquement quand on se fait chier. Voilà.
Quand le rythme est lent.
Quand la pièce commence et on se dit, oh là là, je sens que ça va être long.
On commence à se dire, la chaise est dure.
Voilà. À ce moment-là, on sent que ça va être dur. Donc, il y a, en plus de ça, il y a un auteur, un metteur en scène que j'adore particulièrement, qui s'appelle Thomas Ostermeyer, qui est directeur de la Schaubühne, qui est un très, très, très grand metteur en scène, qui est un jeune metteur en scène d'ailleurs, mais très, très talentueux et très respecté dans le monde entier. Et donc, lui, il parle énormément du rythme. Et en fait, si on veut adapter une pièce, là notamment, c'est-à-dire que le rythme de 1888 n'est pas le rythme de 2014. Aujourd'hui, on zappe, mais très facilement, on zappe les idées, on zappe les faits, on zappe les attitudes, on passe du coq à l'âne, mais 200, 300, 400 fois dans la journée, on fait 4-5 choses en même temps, ce qui n'était pas du tout le même rythme à l'époque, en 1888. Donc,
c'est dû au débit aujourd'hui. Hein.
C'est carrément dû au débit. Ah ouais, carrément dû au débit, multifréquence. Multiconditionné, multi-révolté. Et en fait, ça m'a vraiment intéressé de travailler sur le rythme et du coup, j'ai essayé de travailler aussi un petit peu sur le zapping. C'est-à-dire que, si tu veux, Michel, pour répondre un peu à ta question, c'est tout vient de l'objectif que je me suis mis. Je me suis mis l'objectif étant de faire une pièce pour des jeunes qui vont pas au théâtre. Comment fonctionnent les jeunes? Ça, ça a été ma base. Et ça l'est toujours. Et puis, c'est pour ça qu'on travaille avec des jeunes. C'est pour ça que j'ai mis des jeunes. Il y a un groupe de jeunes qui travaillent dans la pièce, qui font des clowns. En même temps, ils font une espèce de chœur et de coryphée, comme à l'époque tragique, à l'époque antique. Mais toujours est-il que c'est, pour moi, c'est une pièce maîtresse, parce que c'est ça qui me donne le sentiment créatif. C'est ça qui me donne le pouvoir de la création et de pouvoir mettre en scène quelque chose qui, aujourd'hui, n'a pas du tout le même rythme que celui d'hier, que celui de 1888. Donc, moi, les jeunes, quand ils arrivent, je veux pas qu'ils se fassent chier.
Voilà. Et en même temps, dans la pièce, tu as introduit toute une technologie moderne, c'est-à-dire de la vidéo, des éclairages, de la musique, etc. Bon, qui fait que les plus jeunes spectateurs seront tout à fait, se sentiront tout à fait chez eux.
Ah, eux, complètement. Eux, complètement. C'est-à-dire, c'est rythmé. Il y a des noirs, et après, on repart sur une autre scène où il n'y a pas d'incidence directe. En fait,
oui,
entre
on
ne
crée pas ce qui était la fameuse unité de lieu de temps et d'action
du
théâtre classique.
Elle existe, mais elle existe dans un zapping.
C'est ça, dans un zapping.
Voilà.
Comme des espèces de bonds progressives avec un moment où ça s'arrête, c'est le noir, et hop, ça repart.
Hein. Voilà, exactement. Comme je me suis dit, je vais essayer d'être, par rapport au théâtre d'ailleurs, pour ça aussi que j'ai amené le chœur, le coryphée et tout ça, je me suis dit que je vais essayer d'être un très très bon élève, mais pas très respectueux. Un petit chapacan du théâtre.
Alors je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Chapacan, ce sera un des artistes à quatre pattes qui jouera la pièce de théâtre Mademoiselle Julie.
Qui lui aussi est un très bon élève, mais indiscipliné au possible. Voilà, c'est un petit voyou. Et j'aimerais bien être un petit voyou comme ça du théâtre, parce que on les touche un peu. Et si c'est pour faire quelque chose qui a été fait, qui va être fait, c'est toujours la même chose, et c'est pour le même public, et l'art meurt. L'art, c'est quelque chose de vivant. Le vivant ne peut exister que parce qu'il y a confrontation, que ce qu'il y a lutte, parce qu'il y a engagement, parce qu'il y a motivation, parce qu'il y a énergie. C'est à ce moment-là qu'on peut, voilà, créer des choses. C'est comme ça qu'est arrivé, je sais pas, on peut parler du clip, on peut parler des rêves, on peut parler, je sais pas, de tout ce qui est du texto, on peut parler des nouveaux téléphones portables, on peut parler
de l'ordinateur, de la pub.
Voilà, tout va très vite. Tout est le renouveau à chaque fois. Et ça, c'est essentiel. L'art, c'est le renouveau. Alors, on fait du renouveau avec, évidemment...
Avec du vieux.
Avec du...
Vieux.
Avec du vieux.
Forcément. Le coryphée et tout, ça vient du théâtre antique.
Du théâtre grec, en fait. Les coryphées, c'était les personnages qui ne prenaient pas parti dans la pièce.
Mais qui la résumait, en fait. Qui accélérait un peu l'histoire.
Et qui était un petit peu le destin. C'est-à-dire qu'il la faisait marcher en disant, bon, ben maintenant, on en est là. Et d'une certaine façon, bon, vous, les actrices et les acteurs, vous vous débrouillez avec ça. Mais on a avancé d'un cran, voilà. Donc c'était les annonceurs.
Exactement.
Le cœur, corrige.
Et là, le cœur, on va l'avoir. Et le cœur, ça va être des clowns avec des masques blancs et noirs, donc des clowns complètement atypiques. Et ça va être donc les élèves du chariot qui vont le jouer. Et il va y avoir le coryphée. Et ça va être très 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 dynamique.
Très dynamique.
Oh oui,
absolument.
Ouais.
Bon bah c'est sur ces paroles qu'on va lancer une pause musicale, si vous le voulez bien.
Ça marche.
Michel, allez. Qu'est-ce que tu nous as choisi ?
Alors un peu de flamenco, ce qui va très bien avec les chevaux d'un extraordinaire cantaor qui s'appelle Tio Gregorio El Borico, et avec d'autres copains ils se sont réunis. C'est du live, donc pour une grande fiesta dans le quartier de Santiago.
C'est parti.
Sopita de la olla, el agua del río. Esta noche nos vivamos, compañerito.
Vous êtes bien en CFM 107.9 dans le Messager du Cheval, émission spéciale d'ailleurs pour la 150e, avec Jean-Claude Adelin qui est là pour nous parler de la pièce de théâtre Mademoiselle Julie, qu'il adaptera au théâtre le... Tu l'adaptes quand, Jean-Claude ?
Alors, on va jouer au mois de juin, le 11, le 12 et le 13, au mois de juillet, le 29, le 30, le 31, au mois d'août, pour le 1er août, il y a une option, voilà. Après, il suffit de la lever si vous venez nombreux. Et puis ensuite, il y a le 7 août, le 8, le 9 et le 10 août.
Alors,
il y a...
O'Hara National de Rodez.
Alors ça, c'est O'Hara National de Rodez, évidemment, rue Eugène Loup. Il y a aussi, on fait une forme courte, c'est-à-dire on va faire à peu près une demi-heure de représentation au mois de mai, le 16, le 17 et le 18 à Avignon.
Au festival,
voilà.
Hein.
Voilà, ça c'est pas le festival d'Avignon théâtral, mais c'est un nouveau festival qui est créé par Maurice Gall et Fabien Gall. Ce sont les gens qui créent Cheval Passion à Avignon. Donc ils font une forme un peu différente avec voilà trois passages dont le troisième est tout un spectacle entier. Voilà, avec plusieurs artistes, plusieurs compagnies, une espèce de patchwork artistique, équestre, circo-théâtro.
Circo-théâtro.
D'ailleurs, en parlant de Mademoiselle Julie, j'aurais une question, Jean-Claude. Mm-hmm. J'aimerais savoir, comment as-tu trouvé tes comédiens et comment tu les as choisis, en fait, par rapport...
Alors, j'ai trouvé les comédiens de façon un peu hétéroclite, c'est-à-dire que on a fait une annonce sur Pôle emploi.
Ensuite, moi, je me suis pas mal baladé dans les spectacles équestres, et là, j'ai rencontré une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Cheval Rouge, et que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais vu en vrai. Et donc, je les ai vus jouer en vrai, et là, j'ai eu une révélation. C'est-à-dire que pendant des semaines, même plusieurs mois d'ailleurs, je cherchais Julie et je trouvais pas. Donc, j'avais rencontré quand même pas mal de personnes, et ça fonctionnait pas. Voilà, c'était pas ce que j'attendais. C'est pas qu'elles étaient pas bien, les filles. Elles étaient très bien parce qu'elles étaient choisies déjà, mais c'était pas ça. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui est arrivé. Il y a un cheval qui est arrivé, un cheval blanc comme ça sur une piste. Il y avait un fauteuil comme ça des années 60, un fauteuil rouge qui tourne tout seul. Et puis arrive une grande femme comme ça, mais très élégante, avec les cheveux roux, une robe blanche mais qui brille, qui prend la lumière, un truc hallucinant. Et elle se met à danser avec le cheval, elle se met à danser avec la chaise qui tourne, sorte de entre, je dirais, Pina Bausch et Caroline Carlson, quoi. Donc bon, après, tout le monde connaît pas, mais c'est des grosses références de danse. C'est ce qui est le sommet de la danse. Et donc, quand j'ai vu cette présence, je me suis dit, c'est pas possible, c'est Julie. Donc du coup on a parlé, on a discuté, et je lui dis, mais est-ce que t'es comédienne? Ça peut aider. Le rôle est colossal. Le rôle de Mademoiselle Julie, c'est quand même le Hamlet au féminin. C'est Binoche qui disait ça quand elle a joué à Avignon. Donc le rôle, il est très très puissant, quoi. Il est énorme. Adjani l'a joué, Fanny Ardant aussi. C'est un grand rôle. C'est un grand rôle du répertoire féminin. Et là-dessus, Stéphanie, donc elle s'appelle Stéphanie, et elle me dit, mais je suis comédienne. J'ai dit, bon, bah alors banco. Et donc j'ai regardé, elle avait rien, quoi. J'ai rien vu sur elle. J'ai vu un petit truc qu'elle faisait dans un cirque, et puis ensuite je l'ai vu raconter un petit poème en russe. Enfin, c'était une déclaration d'amour. Il y avait des mots russes, des mots français. J'ai dit, mais quelle présence, quelle voix, quelle poésie. Et donc, du coup, pour le casting avec elle, j'ai été la voir. C'est des amis communs. Voilà, c'est des grands du spectacle équestre. C'est les Hasta Luego, pour pas les nommer. Et donc, j'ai été la voir là-bas. Et je lui dis, bon, ben, on a parlé pendant toute une après-midi. Et à un moment donné, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait les essais, on fait quoi? Moi, les essais, ça m'importe peu. C'est la nature humaine que je trouve qui est plus riche que l'essai. On peut très facilement mentir à un essai, mais on ment pas sur la nature humaine. Et donc, j'ai dit, bon, ben écoute, oui. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait? On lit du texte? Je sais pas. Non. J'ai dit, tu peux me chanter une chanson en russe, comme tu fais? Et elle s'est mise à chanter. Et là, j'avais tous les poils qui étaient dressés comme ça sur mon corps, et c'était mais complètement magique. Que les poils, Michel. C'est artistique. C'est une vraie créatrice d'univers. Et c'est pour ça que c'était puissant. Et là, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut chercher les acteurs. Il faut laisser venir les acteurs au personnage, et il ne faut pas essayer d'inventer ou d'imposer un personnage sur un acteur qu'on a casté parce qu'il est payé, parce qu'il a son bulletin de salaire.
Sa mère n'était pas comédienne aussi?
Non, c'est la mère de Marie.
C'est
autre histoire
de...
d'ailleurs.
Magnifique.
Donc voilà, Marie qui joue le personnage de Christine, donc le deuxième personnage féminin. Elle, je l'ai vue en cherchant des gens de cirque. Alors, j'ai fouiné un peu sur Internet, comme ça. Et puis, je tombe sur une fille, je me dis, tiens, elle est pas mal. Et puis je la vois, puis je me dis, ça va pas le faire. Parce qu'elle est un petit peu timide, un peu dans la retenue, comme ça. Et je me dis...
Et toi, tu cherchais une Christine un peu violente, non?
Voilà, un peu violente, un peu manipulatrice, parfois un peu arrogante, comme ça, avec un franc-parler. Et voilà, quelqu'un de très concret, qui a pas peur de mâcher ses mots, qui se laisse pas faire par un mec, enfin voilà. Voilà, une femme...
Pour tenir Jean, quoi.
Voilà, ouais.
Une femme... En fait, une femme très moderne.
Très moderne, complètement. Et donc, je me suis dit, elle est trop timide, ça va pas le faire. Mais le détour des hasards, encore une fois, c'est que, en fait, elle m'appelle et elle me dit, écoute, je suis chez des amis, voilà, est-ce qu'on peut se voir? Enfin, il y avait eu un petit échange de textos ou de mails, et puis elle me dit, est-ce qu'on peut se voir? Je suis chez des amis, je suis pas loin, je suis... à Lavore. Et je dis, Lavore? Bon, oui. Mais elle dit, oui, je suis chez des amis. Et Lavore, moi, je connais qu'une seule personne. C'est un dresseur de chevaux et qui fait du spectacle équestre. J'en connais qu'un. C'est lui. C'est Polo. Et donc, je me dis, et tu es où et tout? Et elle me dit, je suis chez un ami. Voilà, il a des chevaux. Et c'est là où on a acheté, le cheval de Karine. Et je me dis, mais comment il s'appelle? Elle me dit, je suis chez Polo. J'ai dit, c'est pas possible. T'es pas chez Polo. Elle me dit, oui, je suis chez Polo. Donc, en fait, son copain à elle, il fait de la voltige. Alors, les deux actrices, elles sont du milieu du cheval. C'est hallucinant quand même. C'est pas voulu. Il y a un signe, il y a une bénédiction quelque part qui est faite là-dessus, quoi. Et donc, du coup, on a fait des essais. Et là, elle a commencé la lecture. Et c'est un boulet de canon, quoi.
c'est un boulet de canon. Parce que elle a un peu, comme peut avoir ces gens timides, comme ça, qui réfrènent un petit peu de dévoiler leurs sentiments. À partir du moment où ils se mettent à nu, ils sont complètement à nu. Hein. Et là, ça envoie.
On les arrête plus. Hein.
Comment ?
On les arrête plus.
Ah là, tu les arrêtes plus. Et puis c'est puissant, quoi. Ça te traverse le corps. Tu vois, c'est quand même. Voilà. Donc c'est le personnage parfait. En fait, ce sont les rencontres du hasard. Hasard, s'y a-t-il. Hein. Mais en tous les cas, ce sont les actrices qui sont venues au personnage et pas l'inverse. Et je trouve ça, c'est le bon sens.
D'accord. Donc le hasard pour tes comédiens et comédiennes. Et pour les chevaux, tu les as choisis comment ?
Ben les chevaux, ben pareil, je les ai pas choisis. Pareil, ils sont arrivés à moi, comme les actrices. C'est, si tu veux, la jument qui est ma jument, voilà, la frisonne, donc.
Grand cheval noir.
Noir, belle, très,
très impressionnant, très statue.
Voilà, très statue, graphiquement, c'est sublime. Eh bien, elle, c'était la jument de mon ex-femme. Voilà. Et puis après, moi, je suis parti à travailler avec les chevaux. J'ai fait de l'éthologie, j'ai fait de l'étude du comportement avec les chevaux. J'ai étudié ça pendant 5 années. Et en fait, je l'ai étudié avec elle. Donc, mon ex-femme me disait, bon, bah, attends, c'est un peu sympa, mais moi, je l'ai plus, ma jument. Donc, je lui ai offert un autre cheval. Voilà. Donc, c'était un échange de bons procédés, quoi, si tu veux. Et l'autre, l'ongre, donc le cheval espagnol, lui, il est arrivé parce que quand je suis arrivé dans le sud de la France pour apprendre le métier du cheval, surtout le métier du spectacle équestre qui est un petit peu particulier, je voulais rencontrer des grands artistes équestres et donc je suis venu dans le sud de la France et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer de passer un BPJEPS, essayer de rentrer dans les rangs de la société comme il faut. En étant un moniteur équestre. Alors moi, ce qui m'intéressait comme équitation, c'est l'équitation de travail, c'est-à-dire le travail avec le taureau, des choses comme ça. Donc c'est encore un peu particulier. Mais bon, au moins, il y a une filière voilà, où on peut rentrer dans le rail. Et donc, il me fallait un cheval. Donc j'ai acheté un cheval en 5 minutes. Et je l'ai acheté, comme on dit, au cul du camion. Quoi. Je suis monté dessus, j'ai fait yalla dans les prés. La seule chose qu'il avait vue, ce petit cheval, c'était les prés et les taureaux. Et donc, il était à peine monté. Donc j'ai commencé à travailler une semaine avec lui et après j'ai passé les tests pour les examens. Ils m'ont dit mais écoute c'est super, t'es gentil mais tu reviens dans 2 ans. Il y avait rien qui était dans les clous, mais rien. On passe un obstacle, l'autre il me fait le coup de la raquette et tout. Je mange le sable, c'était énorme. Je dis ben toi alors. Et donc du coup je l'avais. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas le vendre, tu vois. Bon, donc il est là. Donc après, je suis venu au Haras de Rodez avec mes 2 chevaux. Et là, il fallait que je le mette au spectacle. Donc j'ai commencé. Et ce cheval était stressé, mais de la mort, quoi. Il supportait pas être dans un box. Il supportait pas être dans un manège.
C'est sûr que s'il est habitué à courir en plein air, ouais, c'est sûr que.
Eh oui, il était
compliqué pour lui,
hein. Tout le temps, quoi. Toute sa vie. Toute sa vie, il faisait les abrivades et tout, tu vois, 15 chevaux qui encerclent comme ça, 4 taureaux. Lui, il aimait que ça. Et donc, du coup, il était hyper stressé et il fallait que je le détende. J'ai un travail fabuleux. On a fait un parcours, mais énorme avec lui et il me le rend au centuple.
Et du coup, tu exploites comment dans ta pièce?
Ben, je l'exploite.
Tu ne feras pas faire d'obstacle, du coup, aussi?
Non. Non, dommage.
Ni la conquête de l'Ouest.
Ça aurait été pour le plaisir des spectateurs, mais non, ça va pas être là-dessus. Non, lui, il va faire plutôt un travail de cirque, comme la jument aussi. Ils ont une grande spécialité qui est le travail de liberté. Après, je vais voir comment je vais le faire, parce que comme la pièce parle de domination et de soumission, il est logique dans l'histoire de la pièce et des émotions que ça véhicule, c'est de dominer le cheval. Alors évidemment, c'est des chevaux qui sont travaillés en liberté, donc au niveau de la dominance, le rapport, il est pas tout à fait ce qu'on pourrait penser nous en tant qu'humains de dominer quelqu'un.
Faut qu'ils valent bien eux, quoi. À côté.
Ah oui, ils sont obligés parce que sinon ils s'en vont, il y a rien qui se passe.
Oui, parce que petite parenthèse, le travail en liberté, ça veut dire que les chevaux n'ont strictement rien, ni mort, ni licole, ni rien du tout.
Voilà.
Et il y a aucun contact ni avec une longe, une corde ou n'importe quoi entre le cheval et en l'occurrence
le dresseur,
toi,
voilà.
Jean-Claude.
Et ça, on peut le faire dans les prés, et les chevaux, ils restent là, quoi. Donc, parfois, ils s'en vont, bien évidemment, mais ils reviennent, et puis, voilà. Donc, il y a toute une complicité, il y a un respect, il y a une confiance qui est établie entre nous. Voilà, ça, c'est un truc qui n'a pas de prix, et surtout qui est un travail de très longue haleine. Donc, ils vont travailler peut-être en rennais, je vais voir, peut-être du travail en main, des choses comme ça, pour montrer, évidemment, la dominance de l'homme sur le cheval.
En fait, le cheval, il prend la place de l'oiseau dans la pièce originale, ou pas du tout?
Non, parce qu'on va pas le tuer, lui.
D'accord.
On aurait bien voulu, mais autant un canari, c'est assez facile, mais cheval, c'est quand même plus compliqué.
Tente le coup,
avec
cheval,
un fusil,
ça
quoi.
Dur. Ça va être dur. Oui, on pourrait avec un fusil. Mais bon, on va peut-être pas le faire.
Ah non, pas question. Ouais.
Et dans cette pièce, tu essayes de faire passer un message spécifique? Tu retouches un peu le message de...
Ben, si tu veux, moi j'ai voulu au départ, j'ai voulu faire passer un message. Je suis quand même un petit peu... Voilà, on va dire un petit peu de confession bouddhiste, on va dire quand même. Je pratique un petit peu, donc moi j'avais envie de faire passer un message, c'est-à-dire que le bien mal acquis ne profite jamais, mais ça marche pas.
Ouais.
Strindberg, il est trop fort. Je peux pas parce que d'un autre côté, là, je torderais quand même la pièce. Et franchement, j'ai pas le droit de le faire. Et puis il faut respecter l'auteur, même si la forme change, le fond reste.
Avec peut-être cette chose-là aussi, c'est il n'y a rien d'accessoire dans le monde. C'est-à-dire tout est important et tout est fondamental. Mmh. On s'aperçoit que un cheval disparaît, une plante disparaît, n'importe quoi, c'est tout l'échafaudage qui se casse la gueule.
Ah, complètement, mais tout est interdépendant, donc on est tous liés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non. Et ça a une incidence. Quoi qu'on fasse, a toujours une incidence sur toute la planète entière, qu'on le veuille ou non.
Et y compris le respect que tu as mis justement pour créer cette complicité entre ces deux chevaux, entre cette jument et toi.
Complètement. Et ça n'a pas été sans difficulté, ça n'a pas été sans erreur, parce que les chevaux, ils nous apprennent quand même énormément de choses. Et ils nous les apprennent très très vite. C'est-à-dire que 500 kilos et la rapidité à laquelle ils vont, ça fait très mal quand on est dans l'erreur. On le voit rapidement, ils m'ont quand même appris que on a le droit de faire des erreurs et qu'on ne peut pas apprendre si on ne fait pas l'erreur. Il n'y a pas l'acquis, il y a juste la connaissance, le savoir quelque part de lecture ou de ce qu'on a étudié. Mais le savoir et la connaissance, ce n'est que tout ce qui nous reste une fois qu'on a oublié tout ce qu'on a appris. C'est à ce moment-là qu'on sait quelque chose. Sinon, on ne fait que répéter comme un perroquet ce qu'on a appris sur un livre ou sur Internet ou ce qu'on nous a dit. Mais il n'y a pas de vraie connaissance. La vraie connaissance, elle vient que parce qu'il y a une erreur. L'erreur est le début de la réussite. S'il n'y a pas l'erreur, il ne peut pas y avoir de réussite.
Et ça, oui, il n'y a qu'un coup de chance dans le meilleur des cas, quoi. C'est ce qu'on peut dire.
Oui, voilà.
Coup de bol, ça a marché. Voilà.
Coup une fois. Là,
oui, ça ne se reproduit pas. Ouais.
Voilà. Nous, on est obligé de faire 10 fois, 20 fois, 30 fois la même chose avec les chevaux et il faut que ça marche. Donc, pour ça, on a été obligé d'explorer toutes les pistes à gauche, à droite. Et tous les hommes de chevaux se l'avouent et n'ont surtout pas peur de se l'avouer d'avoir fait des erreurs. Et il ne faut pas avoir peur parce que c'est le premier mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est de ne pas avouer qu'on fait une erreur. Parce qu'une erreur, ça n'existe pas. C'est simplement la perception qu'on a d'une situation. C'est une situation qui ne correspond pas à ce qu'on aurait aimé. Mais seulement cette situation qui ne correspond pas à ce qu'on aurait aimé devient une erreur que si on fait que la répéter. Si on la répète pas et que si on travaille dessus et que si on corrige cette erreur et qu'à ce moment-là on a un autre résultat qui est peut-être plus favorable, à ce moment-là, c'est le début de la réussite. Donc, à la source et à la genèse, l'erreur est le début de la réussite.
L'erreur est le début de la réussite.
Bon, il nous reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais te poser une dernière question, Jean-Claude. Cette pièce qui met en avant les femmes modernes, j'aimerais savoir, toi, comment tu vois la condition de la femme dans notre société actuelle?
Oula. Bah, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Je pense qu'il n'y a pas de parité, encore que c'est un terme très galvaudé, puisque la parité, je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit sur tous les rapports. La femme a certaines qualités que l'homme n'a pas. C'est évident, c'est indéniable. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait bien plaisir aux hommes et ce qui fait bien plaisir aux femmes. Et y compris à l'inverse, l'homme a certaines qualités que la femme n'a pas. Et donc, il faut garder la spécificité de chacun. Mais d'un autre côté, il faut garder la particularité. C'est ce qui fait la richesse et la différence. C'est ce qui fait la richesse entre une femme, un homme. Je dis un femme maintenant. Un femme, une homme. Ah, mais voilà, au passage, je voudrais faire un petit coucou à deux amis qui viennent de se marier. Deux garçons, voilà, ils sont mariés. Et c'est un couple qui existe depuis une quinzaine d'années et heureusement ils peuvent se marier. Et donc c'est des choses qui sont, si tu veux, la condition de la femme, elle est toujours en évolution. Il faut que les femmes se battent pour leur évolution, mais il faut qu'elles se battent dans une certaine logique, avec un certain entre guillemets respect de ce qu'elles sont elles et de pas se dénaturer.
C'est
voilà
sûr.
De dire moi je veux pareil qu'un homme alors que c'est pas son champ de prédilection, comme un homme qui dit moi je veux pareil qu'une femme mais c'est pas son champ de prédilection. Bon ben il faut que chacun, c'est important que chacun garde sa place. Un cheval il va pas se mettre à nager comme un poisson.
T'as jamais pensé à faire aboyer un cheval?
Non.
Et hennir un chien?
Non.
Même une chienne?
Non, j'ai pas beaucoup d'imagination, Michel.
Une chaîne peut-être.
Comme quoi, Jean-Claude, c'est formidable. Il suffit de poser les bonnes questions.
Il suffit de presque rien. Est-ce qu'on peut parler d'une petite chose? Il y a quand même un financement participatif qui est installé. C'est-à-dire que, voilà, il y a le Facebook, il y a la page Mademoiselle Julie, il y a mon Facebook à moi.
Donne-le, Jean-Claude.
Et c'est Jean-Claude Adelin, tout simplement. La page de Mademoiselle Julie, c'est Mademoiselle Julie. Et donc, il y a un financement participatif. Et donc, on peut y venir de par le Facebook et de par la page. Et sur ce financement participatif, il est important parce que c'est ce qui va nous permettre de payer honorablement les gens qui travaillent sur le spectacle. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous, si tu veux, le parti pris de travailler, mais vraiment en dessous d'un salaire décent. Je dis pas normal. Décent. Mmh. Tout simplement pour pouvoir faire la pièce parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont passionnés par le sujet, par la forme, par l'envie que j'ai envie de donner sur le théâtre et sur le spectacle. Et donc, ils le font tous avec un cœur énorme et malheureusement, ils n'ont pas la finance qui suit. Donc là, il faudrait un petit peu les rémunérer normalement. Voilà. Et donc, et pour ça, il y a un financement participatif.
C'est malheureusement trop souvent le problème dans le milieu de la culture. Tiens, une dernière question. La pièce, elle en est où? Tu avances comment?
Alors,
actuellement?
Aujourd'hui. Là, on en est. Ben là, j'en suis toujours à la réécriture de la réécriture, puisque je réécris tout le temps. Donc, c'est une grande passion. Je suis en train de le découvrir.
Oui, mais là, ce sont les derniers petits ajustements. Quand
voilà, 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 voilà. Oui, oui, oui. La pièce est complètement écrite, mais après, les derniers ajustements, ils ont aussi leur importance.
D'autant qu'il faudra voir aussi dans la bouche des actrices comment ça passe, parce que certaines phrases que l'on peut prononcer, d'autres ont du mal à les prononcer ou ça correspond pas. Donc là aussi, il y aura des petites modifs
complètement
à envisager au fur et à mesure des répétitions.
Tout à fait. Bon. Donc il y a ça, et puis là on en est au décor, on en est à la recherche de matériel, on en est à la recherche de fonds, on en est à quoi, Michel? On en est à tout. À tout, on cherche tout. C'est-à-dire qu'il y a tout est à faire. Mais souvent dans le théâtre ou dans le spectacle, on est toujours, comme on dit, un petit peu à la bourre. On est toujours en retard. On est jamais prêt. Jamais, jamais, jamais. Et c'est sûr qu'on sera pas prêt le jour de la première. Mais ça crée cette émotion, ce côté fébrile, ce côté d'énergie, ce côté vainqueur et combattant qu'il va y avoir lors des premières.
Michel, on est à la bourre. Justement, je te laisse. Tu nous fais un dicton de la semaine et on y va.
Alors, on va changer de région. On va aller chez les Indiens Lakota qui ont ce dicton. Quand le dernier animal aura été tué, le dernier poisson pêché, le dernier arbre coupé, le dernier brin d'herbe piétiné, vous découvrirez, vous blanc, que l'argent, le dollar, ne se mange pas. Nous arrivons donc au terme de cette 150e émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9, et même un acteur de cinéma. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Et vous pouvez bien évidemment réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toi, Jean-Claude, pour nous avoir éclairé sur ce grand moment de cirque-théâtre ou théâtre-cirque qui s'annonce au Haras National de Rodez. Merci à ceux qui nous écoutent de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à nos chevaux.
Merci à toi, Michel. Ciao. Merci, Baptiste.
Ciao, ciao.